La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme. La France, terre d'accueil, terre d'asile. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable.
Ce discours de Jacques Chirac, prononcé en 1995 à l'occasion du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv, marque une rupture dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois, un président reconnaissait la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs vers l'Allemagne pendant l'occupation nazie. Une déportation méthodique, systématique, qui s'est évidemment accompagnée du pillage de tous les biens des familles qui en ont été les victimes. Cette spoliation s'appuyait à partir de 1941 sur une base légale du droit français. On estime à 100 000 le nombre d'œuvres d'art volées envoyées en Allemagne. Environ 2 000 n'ont pas encore retrouvé leurs propriétaires. Les chiffres sont encore plus incertains pour les livres, volés par millions, ou pour les instruments de musique par dizaines de milliers.
Nous voulons avant tout la reconnaissance de cette spoliation. Se dire que si les fonds avaient été versés à la famille, on peut imaginer que ces 5 personnes auraient eu les moyens de fuir. Ces 5 personnes n'auraient peut-être pas été exterminées à Auschwitz. Ça justifie, là, oui, le combat.
Rendre ces objets, c'est bien sûr faire œuvre de justice, mais aussi de mémoire, afin que les familles des disparus puissent connaître toute leur histoire. Des historiens, des avocats, des généalogistes s'impliquent dans cette quête et il y a 2 ans, la France a relancé sa politique de restitution. Une mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 a été créée. On a beaucoup parlé récemment de la restitution des rosiers sous les arbres, la seule toile de Gustav Klimt, jusqu'alors propriété d'un musée français. En l'occurrence, les ayants droit sont autrichiens. Pour établir la provenance des tableaux ou des objets d'art, il faut que des spécialistes se livrent à de véritables enquêtes à travers le temps.
Depuis 20 ans, les recherches ont été entreprises et c'est long. On n'a pas encore nécessairement les moyens suffisants et c'est aussi pour cela que ça prend du temps. Évidemment, pour des familles, se retrouver à demander des choses à une administration ou à des musées qui ont nécessairement l'air de conserver et d'être mal à l'aise avec cette question, ça peut être difficile à vivre pour les familles.
Ces restitutions donnent souvent lieu à de spectaculaires et émouvantes cérémonies, mais pas systématiquement. Ce matin, Delphine Evenou a rendez-vous chez un généalogiste, Antoine Djigpa. C'est là que la maison d'enchères Christie's va rendre à Francine Kahn, la petite nièce de l'avocat et grand collectionneur Armand d'Orville, spolié pendant la guerre, un dessin d'Auguste Raffet, célèbre peintre du 19e siècle. Un événement rare, chargé d'histoire et d'émotion.
Bonjour.
Bonjour,
Madame Kahn.
Exactement, comment vous m'avez
reconnu.
Il y en a une.
Bonjour,
enchanté
d'être
chez vous.
Antoine
Delard,
en vrai. Okay. Je vous en prie.
Interception.
Allez-y.
Merci.
Le
magazine de reportage de la rédaction.
Alors.
Donc, je suis Léa Bloch, je suis spécialiste en art impressionniste et moderne chez Christie's. Et donc, du coup, j'ai la main pour remettre aujourd'hui les dessins.
Francine Kahn, donc ayant droit. On va se présenter comme ça, de la famille d'Orville.
Racontez-nous un peu le parcours de cette œuvre.
Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'œuvre est arrivée chez Christie's en 2020. Et donc, évidemment, comme d'habitude, on fait toutes les recherches de provenance dès qu'un objet arrive, et a fortiori quand il est destiné à une vente. Et là, en fait, ce sont des indices qui se trouvaient sur le support de l'œuvre, il me semble, qui nous ont permis, en fait, de nous mener à cette fameuse vente très problématique, ma voix en tremble, de 1942. Et en fait, là encore, le travail du département des restitutions de Christie's, qui travaille main dans la main avec les archives de Paris, nous ont permis de tout de suite, évidemment, confirmer le fait que cette œuvre provenait de la collection d'Armand d'Orville. On a pu, grâce aux archives de Paris, trouver l'identité de l'acheteur au moment de cette vente. Et en fait, on a un vrai trou de provenance entre le collectionneur qui avait comme nom de famille Hermès, ou quelque chose comme ça en tout cas, parce que c'est toujours très difficile de déchiffrer les minutes des commissaires-priseurs, qui est la personne qui a acquis l'œuvre en 42, et le propriétaire antérieur qui est venu nous voir chez Christie's avec ce dessin qu'il avait acquis très récemment.
Très récemment.
Très récemment.
Donc il y a
un énorme trou de provenance, exactement.
Entre 42 et 2015-2020.
Approximativement, oui.
Alors moi je vous propose d'ouvrir quand même, parce que
cette
œuvre de Gustave et un calme tout ça.
Qui est-ce qui va oser donner le coup scalpel?
Ah, c'est vous, sincèrement c'est vous. Allez-y, on a déjà
trouvé. Un canard hâte, c'est la
même. Oui, je comprends, elle a été patiente en plus.
Ah, c'est très beau.
Et les pigments sont extrêmement frais, hein, parce que c'est une œuvre qui date de 1853, donc c'est quand même...
Et il vous a été remis comme ça?
Comme ça.
Oui. Moi aussi, il faudra que je documente pour ma famille.
Mais bien sûr.
C'est superbe. Si vous permettez, finalement... je vais prendre du recul, je veux faire une photo de l'ambiance.
Bien sûr.
Mon reportage personnel, pour vous montrer l'ambiance générale de cet événement.
Merci.
Grand plaisir, je suis ravie. Je suis honorée d'avoir pu représenter Christy.
Si vous pouvez retransmettre quelque chose à généreux donateur,
oui.
Dites-lui la... Parce que ça représente pour nous.
Bien sûr.
Alors, je m'appelle Francine, je suis une des 10 ayants droit d'Armand d'Orville, en lien direct avec lui, puisque je suis en fait sa petite nièce. Maman était sa nièce.
C'est une nouvelle étape ce matin pour vous?
C'est une étape, oui, nouvelle, supplémentaire, puisque, bon, il y a déjà eu une restitution à Berlin. Là, c'est la première qui a lieu en France. Et c'est tout un symbole. Il y a énormément d'œuvres en France qui sont susceptibles d'être restituées. Et on peut penser que ça peut créer un précédent. Que ce soit par des entités privées, comme c'est le cas aujourd'hui, ou des entités publiques.
Votre combat, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais votre quête pour reconstituer la collection de votre grand-oncle, elle est loin d'être terminée.
Oui, tout à fait, mais je crois que vous avez raison. Pour moi, ce n'est pas un combat. Le combat, il est, je dirais, au niveau de la reconnaissance de la spoliation qui a eu lieu. Ça, c'est important. Le reste, comme vous dites, c'est plus le mot de la quête, hein, de retrouver les œuvres. Hein. Quand on voit cette œuvre, on se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été vendue en 42. Et elle arrive maintenant, en 2021. Quel itinéraire? Où est-elle passée? Entre quelles mains? Lors de la vente de 42.
Pour revenir justement au point de départ, vous avez reçu un coup de fil en octobre 2016. Oui. Vous êtes, je crois, une ancienne biologiste, pas du tout passionnée d'histoire de l'art, d'art. Ça vous est tombé dessus, en fait?
Ah, complètement. En fait, ça s'est fait en plusieurs séquences, puisque un coup de fil qui dit... Nous serions destinataires d'un héritage. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et comme c'est un autre ayant droit, à ce moment-là se passe ce qu'on appelle la révélation. La révélation de quel est cet héritage. C'est un héritage d'Armand d'Orville. Mais mon grand-oncle, c'est un avocat. Ben, apparemment, c'était un collectionneur aussi. Dans les premières informations que j'avais, c'était des œuvres vendues à Nice, en 42, lors de la vente de 24. Bon, pour moi, dans cette première information, c'était dans cette vente, il y a eu quelques œuvres ayant appartenu à Armand d'Orville. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré, ici même, dans les locaux d'ADD, Emmanuelle Polak, chercheuse de provenance, qui m'a remis le catalogue de la vente. Et ce jour-là, donc c'était un an plus tard, c'était en octobre 2017, j'ai découvert que c'était pas quelques œuvres d'Armand d'Orville au milieu d'une vente aux enchères de 42, mais c'était l'ensemble de la collection qui était suffisamment importante, si j'ose dire, pour avoir justifié 3 jours de vente aux enchères. Là, c'est un uppercut qu'on prend.
plusieurs membres de votre famille ont été assassinés dans les camps de concentration. Est-ce qu'il y a une question de justice pour vous ? Quelle est la part de votre histoire à vous et de ce que vous souhaitez faire pour la mémoire collective ?
Effectivement, cette vente, hein, c'est la question. Hein. Nous voulons avant tout la reconnaissance de cette spoliation. Parce que la famille, en tous les cas, n'a pas récupéré les fonds générés par cette vente. Mais se dire que la famille n'a pas eu les fonds et qu'après, il y a eu 5 personnes qui ont été déportées, dont la sœur d'Armand d'Orville, ses 2 filles, enfin, donc 2 nièces d'Armand d'Orville et 2 petites filles de 2 et 4 ans, se dire que si les fonds avaient été versés à la famille, on peut imaginer que ces 5 personnes auraient eu les moyens de fuir. Ces 5 personnes n'auraient peut-être pas été exterminées à Auschwitz. Ça justifie, là, oui, le combat.
Antoine Jigpa, généalogiste chez ADD et Associés.
Qu'est-ce que vous ressentez dans des moments comme celui qu'on a vécu ce matin ? C'était une première pour vous ?
Alors, ce n'est pas une première, puisque nous avons déjà obtenu la restitution de 3 tableaux en Allemagne, et puis d'un autre petit tableau l'année dernière. Mais en fait, c'est le prolongement du travail que l'on a entamé il y a 4 ans, et c'est beaucoup d'émotions, vous l'avez vu, parce que au-delà de ces tableaux, il y a des mots que vous avez entendus ce matin, et notamment le mot de Auschwitz qui résonne évidemment de manière très très forte. On se réjouit tous d'arriver aujourd'hui à cette restitution, mais il ne faut pas oublier derrière l'histoire tragique qu'il y a qui concerne cette famille.
Votre métier, on le connaît peu. Vous êtes une sorte de trait d'union entre le passé et le présent dans ces dossiers de recherche de provenance, de restitution. Quel est votre rôle exact ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, notre travail consiste à retrouver les héritiers, à les accompagner dans l'identification et la revendication des œuvres, en mettant en place un travail d'équipe avec des historiens d'art, spécialistes des recherches de provenance, et souvent un cabinet d'avocats qui peut nous accompagner également.
Ce sont des dossiers qui prennent plusieurs années. Quelles difficultés vous rencontrez ?
Alors, selon les lieux où se situent aujourd'hui les œuvres, les difficultés peuvent être différentes. Lorsqu'elles sont dans une collection privée, elles sont évidemment beaucoup plus difficiles à identifier. Et en même temps, on peut avoir des propriétaires, entre guillemets, actuels, qui sont très à l'écoute des revendications des familles. Lorsqu'elles sont dans des collections publiques, elles sont souvent plus faciles à identifier, à localiser, parce qu'il y a des catalogues, il y a de la publicité, etc. Mais après, ça peut être aussi le parcours du combattant de se faire restituer des œuvres. Donc ça dépend des législations dans chaque pays, même si la plupart des pays ont signé les accords de Washington qui définissent des grands principes pour pouvoir restituer aux familles spoliées les œuvres.
C'est un travail qui demande du temps, des moyens humains et donc qui coûte de l'argent. Vous le dites, il faut assumer qu'il y ait une économie de la recherche de provenance et de la recherche d'ayant droit.
Exactement. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. C'est un sujet un peu tabou. En effet, c'est une économie, puisque pour aboutir à une restitution, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, des historiens, des avocats, des généalogistes. Et dès lors que ce sont des missions de service public, etc., là tout le monde trouve ça normal. Dès lors qu'il y a des entreprises privées qui interviennent, là, on sent qu'il y a un tabou, une difficulté à aborder cette question, qui se comprend assez bien d'ailleurs, parce que c'est difficile d'associer la justice, la réparation et un drame tel que celui de la Shoah à une économie. Donc sur le principe, tout le monde voudrait que ce soit évidemment bénévole, mais en fait, pour pouvoir permettre des restitutions, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des risques, qui investissent. Voilà. Mais c'est un sujet qui est difficile à aborder et on le comprend très bien, mais je crois que, enfin, il mérite d'être posé pour être dépassionné.
Vous êtes la famille Antonon?
Oui.
Enchantée, Delphine Hérault, France Inter. Benjamin, à la prise de son.
Bonjour.
Laura Andremont, j'ai 27 ans et je suis la fille d'Antoine et la petite fille de Gilbert Andremont.
Olivier Andremont, je suis donc le frère de Laura, j'ai 38 ans et mon passé familial est le même.
Et moi je suis Antoine Andremont, le père d'Olivier et Laura. Nous avons un arrière-grand-oncle, enfin j'ai un arrière-grand-oncle qui s'appelait Fernand Andremont, qui était né sous le nom de Fernand Almayer et qui avait changé son nom pour Andremont à la fin du 19e siècle, qui était avocat et collectionneur de tableaux, et qui est décédé en province au moment de l'Exode, en 40. Et quand mon père est revenu à Paris après la guerre, il a trouvé l'appartement vide. Les tableaux qui étaient dedans avaient disparu. Et puis, mon fils Olivier, il y a un an et demi à peu près, a retrouvé cette liste sur Internet.
D'un coup apparaît cette liste avec effectivement tous les tableaux dont j'avais toujours entendu parler, mais comme ça, comme une histoire de famille, comme il y en a beaucoup. Et cette liste finalement assez précise, quoi.
Moi, dans ma génération, on ne l'aurait pas fait, quoi. Pour les raisons que beaucoup de gens évoquent, c'est que c'était probablement trop près des faits et qu'il y avait une espèce de creux. Et effectivement, si mes enfants n'avaient pas été intéressés à rouvrir cette affaire, je pense qu'on ne l'aurait pas fait.
Qu'est-ce qu'il y a sur cette fameuse liste?
Alors combien d'œuvres, je ne sais pas exactement, il y en a plusieurs dizaines. Des noms qui parlent, il y en a quelques-uns, sans être expert en art, il y a quelques noms. Il y a Rubens, il doit y avoir Fragonard, il doit y avoir...
David. Avec Olivier, on avait un peu essayé de notre côté, en tapant les noms des tableaux sur Google, de regarder si par hasard on ne les trouvait pas. Parfois, on trouvait les mêmes noms, mais comme je disais, il y avait tellement peu de descriptions que quand j'ai essayé de contacter certains musées qui m'envoyaient en fait la preuve d'où venait leur tableau, et ils venaient pas de la collection de Fernand Andremont. Donc on a essayé un petit peu comme ça, mais on n'a pas les ressources, on n'avait pas le temps.
À nous, actuellement, c'est difficile, hein, parce que on a été chercher à gauche, à droite, ce qu'on trouvait, et puis finalement, au bout d'un moment, on se heurte à... On a l'impression de se heurter à un vide, quoi. C'est à qui s'adresser
Non, et puis on n'a pas eu beaucoup de nouvelles du ministère de la Culture récemment.
Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de continuer. Mais savoir ce qu'il faut faire en pratique pour récupérer les œuvres, honnêtement, on serait tout seul, je ne saurais pas quoi faire.
Même si par hasard, on ne retrouvait pas les tableaux, moi je pense qu'on va en retrouver, hein. Mais même, ça a déjà changé quelque chose dans la famille, quoi. Et dans le souvenir de la famille, de la façon dont on en parle à la maison.
En fait, cette histoire des tableaux, c'est plus le moyen qui fait qu'on est rassemblés pour remonter à ces histoires.
On essaie de voir comment on peut travailler ensemble. Mais ça va être très long. Je peux pas envoyer avec l'affaire d'Orville, on a un catalogue hyper précis avec des dimensions,
ouais,
des
ça,
photos, et c'est ce qui change tout en fait.
Ouais.
Merci, au revoir.
Les familles en quête des biens de leurs aïeux finissent presque toutes par croiser la route d'Emmanuel Polak. Historienne de l'art, autrice d'une thèse sur le marché de l'art pendant l'occupation, elle travaille actuellement pour le Louvre. Le musée souhaite faire la lumière sur la provenance de ses acquisitions entre 1933 et 1945. Une période pendant laquelle les ventes d'art ont continué, y compris à l'hôtel Drouot, le temple des enchères parisiennes depuis 170 ans. Il vient d'ouvrir ses archives aux conservateurs du musée. C'est là, dans le 9e arrondissement, qu'on retrouve Delphine Evenou.
On a rendez-vous dans le 9e arrondissement de Paris, devant l'hôtel Drouot. Une grande façade assez graphique, un peu de verre, un peu de béton, un peu d'acier. Le bâtiment a été rénové dans les années 70, mais il y a des ventes ici depuis plus de 170 ans. y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les archives ont beaucoup de choses à dire.
France Inter, Interception.
Bonjour, enchantée.
Bonjour Laurence, comment allez-vous?
Bien.
Alors je m'installe là, j'enlève mon manteau. Je vais vous laisser. Laurence, on pourrait regarder ensemble les catalogues, vous savez, années 40, 41, 42.
Oui.
On peut les compter, voilà. Et puis après, ça.
Emmanuelle Polak, je suis historienne de l'art et je suis chargée depuis le 6 janvier 2020 de travailler sur les acquisitions du Louvre de l'année 1933 à l'année 1945. Donc c'est vraiment le moment crucial. Très concrètement, ici c'est un endroit, ce sont les archives de Drouot. Et ici est conservé un trésor d'informations. Et surtout, j'aime particulièrement regarder les catalogues de la période 1940-1945. Il s'agit d'essayer de renseigner le transfert de propriété d'un objet d'art. Voilà. Alors comment on s'y prend? Ben, on essaye de traquer l'objet d'art dans les catalogues de vente et on essaye de voir à quel moment il est passé dans la vente, par qui il a été vendu, sous l'autorité de qui, est-ce qu'il a été vendu dans des conditions de non-contrainte ou, pour la période qui m'intéresse, y a-t-il eu des contraintes exercées sur ces ventes? Voilà, c'est un petit peu ce que je traque, ce sont les indices. Et puis, à l'intérieur, vous avez aussi la description de l'objet. Si vous êtes très chanceux, vous avez une photographie, une reproduction. Donc ça, c'est éminemment précieux. Et puis ensuite, vous avez un historique qui nous permet de vérifier la provenance.
On a des rangées de livres, oui, sur 7 étages, avec des couloirs assez étroits, et tout est rempli. Et on voit qu'il y a une partie qui est occupée par quelques années seulement.
Vous voyez, pour l'année 1938, on est à peu près à une petite dizaine de catalogues. Et puis, à partir de 1941, vous voyez vraiment le nombre beaucoup plus important qui représente les ventes. Hein, parce que derrière ces catalogues de ventes, eh bien, nous avons les ventes et nous avons la mémoire des objets, des transactions réalisées sur des objets d'art. Et vous avez ici l'année 42. Alors, je pense que l'année 42 est vraiment l'année la plus importante, avec l'année 1943 également. À ce moment-là, l'hôtel Drouot est la première place du marché de l'art mondial. Alors, j'ai en main un recueil de différents catalogues de vente. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ce ne sont pas des ventes sous couvert de lois d'exception de Vichy, auquel cas qui pourraient être frappées de nullité par une ordonnance du 21 avril 1945. Vous voyez, c'est ce que je traque un petit peu, c'est ce que je regarde. Et on voit tout de suite que la vente du lundi 13 décembre 1943, on nous le dit, c'est une vente de biens israélites. Donc on sait que nous sommes sous la contrainte de la loi du 22 juillet 1941, loi relative aux entreprises biens appartenant aux familles juives. Et à ce titre, on est dans des ventes d'œuvres polies. Vous voyez, c'est à noter. Certifié exact. Succession de Madame X. Alors là, il nous faut savoir qui est Madame X. Donc, quelquefois, on cherche. Là, ça, c'est des grandes ventes. Les commissaires-priseurs avaient des belles ventes sous leur marteau d'ivoire. Bonnard, Braque.
Vous restez ému quand vous ouvrez ces livres de vente?
Écoutez, celui-ci, oui, c'est là, oui, là, je suis toujours très touchée. Je ne m'habituerai jamais à ces petites indications sèches qui, derrière, disent beaucoup. Parce que derrière, on imagine bien qu'il y a un intérieur d'une famille. On peut imaginer qu'elle a été internée dans les camps français
et puis qu'elle a pu aussi être déportée. Et donc, oui, derrière cette mention, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Une clé.
Ceci était le château du docteur Goebbels. Et M. von Ribbentrop s'était procuré celui-ci en expédiant son propriétaire à Dachau. Volé par les seigneurs du Reich, voici des lingots d'or, de l'argenterie, des billets de banque, des tableaux de maître, puis des collections publiques et privées. L'Allemagne était devenue la caverne d'Ali Baba, mais avec beaucoup plus de 40 voleurs. Tout ce joli monde paiera. Déjà, la râpe est abondante.
On retrouve Emmanuel Polak un lundi dans ses bureaux au Louvre. Le musée abrite plusieurs centaines de MNR, musées nationaux récupération, et d'OAR, objets d'art récupération, deux sigles qui désignent des biens culturels, pas forcément spoliés, mais emportés en Allemagne pendant la guerre, revenus en France après. Une partie a été attribuée au Louvre. Et puis il y a les acquisitions, sur lesquelles Emmanuel Polak se penche donc depuis un an et demi.
Alors, bienvenue au département des objets d'art. Donc Marie-Cécile Bardoz, je suis documentaliste au département des objets d'art et je suis chargée de la documentation des objets d'art récupération, l'équivalent des MNR au département des objets d'art. Pour ma part, en fait, je travaille sur les OAR depuis seulement un an et demi, alors que je suis depuis plus de 30 ans au département. Donc c'est très récent et je dois dire que l'arrivée d'Emmanuel a été assez extraordinaire parce que ça nous a mis un coup de fouet, tout simplement. Donc elle a à la fois une expertise que nous n'avons pas, que nous n'avions pas, il faut dire franchement les choses, et puis, disons-le franchement, un réseau, là aussi, que nous n'avons pas.
Emmanuel, vous nous expliquez en quelques mots ce que vous faites ici avec les collaborateurs du Louvre ?
Oui, nous avons vraiment à cœur de partager les outils de recherche nouvellement accessibles avec, par exemple, je vais donner des exemples, hein, le bottin des spoliés. Donc, vous voyez très bien que les départements peuvent consulter le bottin des spoliés et avoir des noms qui vont tout de suite les alerter et qui vont leur permettre d'aller un petit peu plus loin.
Je propose qu'on continue avec Madame Mathieu.
Bonjour, donc, Négine Mathieu, je suis conservatrice du patrimoine et directrice de la recherche et des collections. Alors, le musée du Louvre donc, a souhaité engager un travail conséquent sur ce travail des biens spoliés et sur sa compréhension de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et en particulier du devenir des collections juives en particulier, et aussi de la venue des œuvres, de la circulation des œuvres à cette époque-là. Il fallait une compréhension vraiment du moment historique particulier, des lois d'exception, d'une circulation des œuvres, et donc d'ajouter des compétences pour pouvoir mieux comprendre ces œuvres et puis essayer de travailler sur leur provenance et de faire aboutir des dossiers.
On voit sur certaines étiquettes bien récupérées à la fin de la Seconde Guerre mondiale ces œuvres MNR, OAR, qui sont donc parties en Allemagne puis ont été ramenées à la fin du conflit en France. Elles sont exposées au public, mises en avant, bien étiquetées, comme bien provenant de la récupération. J'imagine qu'il y a une politique de pédagogie derrière.
Essentielle. Alors c'est vrai qu'avec le travail de recherche qui est mené au sein des départements, il est essentiel aussi de raconter cette histoire et surtout de montrer les œuvres pour qu'elles puissent encore peut-être rencontrer l'œil de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'averti, d'un visiteur ou même membre d'une famille qui pourrait reconnaître. Donc c'est vraiment un devoir, une obligation de présenter ces œuvres.
Le Rijksmuseum d'Amsterdam a lancé en 2012 une politique systématique de recherche de provenance sur ses œuvres. Pourquoi ça a pris plus de temps en France ?
Alors, c'est vrai qu'on a mené, disons, des politiques successives, mais en fait, maintenant, ce qui change, c'est qu'on considère qu'il y a un peu une urgence de le faire, parce que, d'abord, l'histoire des familles aussi est complexe. On sait qu'on est à un moment d'histoire où des héritiers ne sont plus, où le lien avec cette histoire se détend. Et puis, c'est aussi un moment donné où on a quand même un nouvel accès aux archives, et donc qui permet de relancer le sujet.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'œuvres issues de la spoliation ? qui sont au Louvre ou dans ces magasins ou pas encore?
C'est le travail justement qui est en cours. Il y a un premier bilan seulement qui a été fait sur l'ensemble des acquisitions de toutes composantes dont la question de la spoliation ne se pose pas. Et il s'agit dans cet ensemble très vaste de repérer s'il y a éventuellement des œuvres qui peuvent avoir été spoliées. C'est le travail en cours, justement ce travail sur le long terme qui doit être fait.
Et là, c'est impossible de savoir pour l'instant.
Pour l'instant, c'est impossible de savoir.
Du Louvre au ministère de la Culture, il n'y a qu'une rue à traverser. Delphine Evenou l'a franchie pour rencontrer David Zivi. Il est le responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, une mission créée il y a 2 ans.
Bonjour Monsieur Zivi, vous allez bien? Merci de nous accorder du temps.
Installez-vous comme vous souhaitez, en coin peut-être.
Ouais. David Zivi, vous êtes le responsable de la mission de recherche et de restitution sur les biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Il faut reprendre son souffle quand on l'a dit. Et on va juste faire un tour. Je suis curieuse, j'ai vu plein de photos de tableaux là-bas. J'imagine que ça a à voir avec les travaux de la mission.
Exactement. Donc là, c'est le bureau de notre collègue Alain Prévet. Et donc, il y a un tableau de chasse, entre guillemets, pourrait-on dire, avec des œuvres qui, pour certaines, ont été restituées. Et puis, pour certaines, des œuvres sur lesquelles nous travaillons, sur lesquelles on s'interroge, ou pour lesquelles, plutôt, nous attendons également un avis de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, pour savoir si... si elle considère que ce sont des œuvres spoliées et qu'il faut les restituer.
Ça peut sembler assez étonnant que 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y ait toujours autant de biens à restituer.
Oui, le temps a passé. On est à plus de 80 ans après les premiers vols en France, en 1940. Mais en même temps, cela s'explique assez bien. On distingue en général 3 grandes périodes. Il y a cette première période que l'on a un peu oubliée, où quand même, donc sur les 60 000 œuvres qui sont revenues d'Allemagne, 3/4 ont été restituées. Donc un gros travail a été fait, mais on s'est arrêté au bout de 5-6 ans, au début des années 50. Parce qu'on était dans un état d'esprit différent, on passait à autre chose, on considérait qu'on avait fait le travail, et a commencé à ce moment-là une période beaucoup plus longue, de quasiment 50 ans, jusqu'au milieu des années 90, où cette question n'était pas du tout centrale, on s'intéressait un peu moins, parfois beaucoup moins, à la provenance des œuvres, et donc c'est aussi pour cela qu'on a pu acquérir des œuvres sans creuser beaucoup, suffisamment, la question de la provenance. Et c'est seulement dans les années 90 que, de façon générale, la question du génocide, de la Deuxième Guerre mondiale, de la mémoire de la Shoah est réapparue. Il y a un mouvement général qui est lié à notamment l'ouverture d'un certain nombre d'archives à l'Est, la chute du mur, le changement de génération. Et donc, à ce moment-là, ces questions-là reviennent à la surface. Et donc, depuis 20 ans, les recherches ont été entreprises et c'est long.
Votre mission va souffler sa deuxième bougie au printemps. Et pourtant, les ayants droit qui sont engagés dans des démarches se sentent encore un peu seuls face à des difficultés, face aux démarches à entreprendre. Ils ne savent pas toujours à quelle porte frapper. Il y a encore du travail de sensibilisation et de démarches actives de la part de l'État français pour aller chercher ces personnes dont les aïeux ont été spoliés.
Évidemment, pour des familles, se retrouver à demander des choses à une administration ou à des musées qui ont nécessairement l'air de conserver et d'être mal à l'aise avec cette question, ça peut être difficile à vivre pour les familles.
Combien de dossiers sont en cours et combien de restitutions sur les dernières années?
Donc l'an dernier, nous avons eu du côté des œuvres MNR, Musées Nationaux Récupération, 24 œuvres ou objets qui ont été restitués. Nous avons eu le règlement entre la ville de Brive et une famille d'origine allemande d'un dossier qui s'est donc traduit par le fait que l'œuvre, la tapisserie, reste à Brive au musée après indemnisation de la famille par le musée. Nous avons eu également 2 autres restitutions assez particulières qui, elles, ont été demandées et imposées par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Guimpel. Et puis, cette année, en cours, nous avons à la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation presque une 20aine d'œuvres qui sont donc en attente, notamment parce qu'on est en train de chercher les ayants droit des propriétaires. Et puis, il y a la 20aine d'œuvres liées au dossier d'Orville qui est en attente également.
il y a les tableaux de Rimbaud, Degas, Pissarro qui attirent la lumière. Mais d'autres biens culturels ont été spoliés et pour cela, les travaux de recherche sont bien plus récents. Entre 5 et 10 millions de livres ont par exemple été spoliés en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Une partie n'a jamais été retrouvée. D'autres ont été répartis dans une cinquantaine de bibliothèques françaises, dont la Bibliothèque nationale qui, dans les années 2010, s'est attelée à examiner ces fonds arrivés après-guerre et qui accepte aujourd'hui de nous ouvrir l'un de ses magasins, une salle où sont conservés les registres d'entrée, des documents que peu de monde consulte et qui permettent de mener une enquête historique.
On passe à côté à des salles de lecture, les gens ont l'air très concentrés.
C'est là qu'on sort le petit badge. Hein.
Alors on a une soufflerie parce qu'on est dans une pièce d'archives et donc j'imagine que c'est pour conserver dans les conditions optimales les biens que vous avez ici.
Alors ça c'est les fameux couloirs des archives.
Voilà, donc c'est bouger. Vrai que c'est les archives de la bibliothèque, oui absolument. Merci beaucoup.
Donc je suis Anne Pasquignon et je suis l'adjointe de la directrice des collections pour les questions scientifiques et techniques.
Est-ce qu'on peut faire une fiche technique de ce que vous avez dans vos fonds ? Combien d'ouvrages concernés et quel type de livres ? Est-ce que ce sont des manuscrits anciens, des romans de gare ? Je ne sais pas.
Il y a de tout.
Il y a de tout, effectivement. Oui, il y a à la fois des ouvrages précieux, des manuscrits médiévaux, des Corans médiévaux, des partitions musicales, des documents qui ont une valeur en tant que tels. Et puis, à côté de ça, des documents qui présentaient un intérêt pour leur aspect documentaire, c'est-à-dire des ensembles d'ouvrages sur une thématique donnée, dans des langues données, des langues rares, et donc qui ont constitué des lots qui ont été attribués à la Bibliothèque nationale. Il y a aussi eu un lot sur le théâtre, et là il s'agissait d'ouvrages récents, d'ouvrages contemporains de l'époque des spoliations, des années 30 ou fin des années 30. Et donc là c'était des ouvrages plus courants, sans valeur particulière. Et c'est parmi cet ensemble, donc qui n'avait pas donné lieu à un examen depuis la date de leur dépôt, que l'on a pu retrouver donc un ouvrage avec une dédicace à Victor Bache, donc qui a permis d'identifier qu'effectivement cet ouvrage avait appartenu à cette personne et de permettre la restitution de l'ouvrage à sa famille.
Laurence Angèle, vous êtes présidente de la Bibliothèque nationale de France. On a beaucoup travaillé sur la question des tableaux spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les livres, il a fallu attendre encore un peu plus longtemps. Comment vous l'expliquez ?
Je pense que, sans être spécialiste de la question, qu'il y a au moins deux raisons qui expliquent cet intérêt second. Le premier, c'est que la valeur, pas seulement symbolique, mais la valeur aussi marchande de ces documents est en général moindre. En tout cas, il n'y avait pas cette conviction que des trésors pouvaient être identifiés un par un et ensuite restitués. Et la difficulté à identifier, c'est-à-dire que dans une famille, on se souvient d'un tableau accroché au mur d'une pièce. On ne connaît pas l'inventaire d'une bibliothèque, en tout cas très rarement. Il faut déjà avoir un esprit de bibliothécaire pour faire chez soi l'inventaire de sa bibliothèque. Donc la difficulté matérielle à le faire. Ma conviction, c'est que le travail ne se terminera jamais. On a réussi à identifier 70% des documents qui sont rentrés à la bibliothèque après tout ce travail de répartition qui s'est fait juste après la guerre. C'est 13 000 documents qui ont été répartis entre les bibliothèques à la fin des années 40. Ça n'est qu'une partie des biens spoliés. Il y avait 5 à 10 millions de documents issus de bibliothèques qui ont été spoliés. On les quantifie ainsi. 700 000 à peu près ont été restitués. 1 million ont été traités tout de suite après la guerre. 13 000 sont arrivés après toutes ces étapes dans les différentes bibliothèques. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc nous-mêmes, nous travaillons sur d'autres mode d'entrée dans des collections publiques de biens dont on sait qu'ils ont été spoliés, et notamment via les maisons de vente, et notamment Drouot. Donc on a engagé un travail de recherche sur cet autre mode d'entrée de biens spoliés. Il y a encore beaucoup à dire sur ces collections et sur leur itinéraire malheureux.
Des millions de livres encore qui sont quelque part.
Absolument.
C'est le dossier le moins connu de la spoliation, celui des instruments de musique. Des pianos, des violons, des harpes pillés par milliers. Pour leur redonner vie en 2017, une association a vu le jour, Musique et Spoliation, cofondée par maître Corinne Herschkovitch, figure des questions de spoliation, surnommée Madame Restitution, et par Pascal Bernheim qui nous attend rue de la Manutention, en face de la Tour Eiffel, derrière le palais de Tokyo.
Madame Bernheim, vous nous avez donné rendez-vous ici, rue de la Manutention. La Tour Eiffel n'est pas loin et surtout, on est derrière le palais de Tokyo.
Oui, alors nous sommes devant l'entrée des peintures et des sculptures et des réserves en fait du palais de Tokyo. Et c'est là qu'étaient stockés les pianos qui étaient récupérés dans les appartements pillés que les juifs étaient contraints de laisser puisqu'ils devaient fuir.
Cette spoliation des instruments de musique, elle est assez peu documentée. On a quelques paragraphes dans les travaux nombreux de la mission Matteoli qui a été lancée en 1997. Et puis il y a un ouvrage, un seul, celui de Willem de Vries, que vous avez œuvré avec votre association à traduire en français. Mais finalement, peu d'historiens ont travaillé sur la question.
Oui, effectivement. Ça s'explique parce que un instrument de musique, c'est jamais aussi spectaculaire qu'un tableau, par exemple. Et aussi, l'identification d'un instrument de musique est beaucoup plus difficile que l'identification d'un tableau.
Et vous, votre travail à Musique et Spoliation, vous êtes une jeune association, vous avez 4 ans, c'est justement d'essayer de faire avancer un peu cette recherche archivistique, ces dossiers.
Voilà, c'est de mettre un coup de projecteur sur cette question des instruments spoliés pour... Alors, la question de la restitution n'est pas la question principale pour nous parce que, d'abord, c'est très très difficile. Il faut apporter des preuves qu'on n'a pas puisque pour justifier de la propriété d'un instrument, il faut avoir une facture, un certificat avant-guerre qui colle avec l'expertise qui peut être faite après-guerre. Enfin, c'est très 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 compliqué. Mais ce qui est important, c'est de retracer l'histoire de l'instrument. C'est une question d'un travail de mémoire. D'abord pour la mémoire des gens qui ont posé leurs doigts sur ces instruments. Et puis ça aide beaucoup à l'authentification des instruments de musique. Puisque si on peut retracer toute la vie d'un instrument, on n'a plus de raison d'avoir le moindre point d'interrogation sur sa provenance.
Dans une jolie cour d'immeuble et normalement c'est à gauche. Voilà, cabinet Corinne Herschkovitch, avocat à la cour, troisième étage.
Corinne Herschkovitch, avocat à la cour de Paris.
Ça fait 25 ans donc, que vous travaillez sur cette question. Quel regard vous portez sur l'évolution de ces dossiers de restitution? Est-ce que c'est plus compliqué ou pas?
Alors je dirais que l'évolution favorable, c'est la parole politique, parce que quand j'ai porté cette première affaire à partir de 95, l'accueil était extrêmement froid et désagréable. Et l'ouverture politique en faveur des restitutions intervient en mars 2013. Aurélie Filippetti était ministre de la Culture à l'époque et elle prononce un discours absolument en rupture, vraiment. Elle considère, elle dénonce l'inertie du ministère de la Culture, du service des musées de France, et elle préconise une politique proactive, c'est-à-dire qu'il faut rechercher les propriétaires des biens spoliés. Mais dans ma pratique, je suis confrontée aux administratifs, ceux qui doivent faire le travail, et là je dois dire que la mise en œuvre de cette parole est beaucoup moins favorable que ce qu'on pourrait imaginer. Je suis toujours confrontée au même problème, à la même inertie volontaire de l'administration qui ne fait pas les recherches. Enfin, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais dans les dossiers que j'ai eu à traiter, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à collaborer avec l'administration. C'est toujours une bataille.
La question centrale, une des questions centrales, c'est celle de la formation.
Jusqu'ici, le service des musées de France avait gardé entre ses mains l'instruction des revendications et considérait que les conservateurs étaient ceux auxquels il fallait confier les recherches de provenance. Moi, je suis convaincue que les conservateurs ne sont pas formés à la recherche de provenance, même si ça fait partie de l'histoire de l'art que d'essayer de tracer l'histoire d'une œuvre. Mais la recherche de provenance est un peu différent. La recherche de provenance, c'est la traçabilité d'une œuvre dans un contexte historique, dans un contexte juridique et dans un contexte anthropologique. Et c'est cette formation qui est très lacunaire en France. Il n'y a pas de formation universitaire. Il y a comme ça, de manière éparse, quelques enseignements. Il faudrait, à mon avis, un vrai diplôme formateur pour ce métier qui devient de plus en plus indispensable. La formation à la recherche de provenance est aujourd'hui un aspect très important dans les restitutions.
Chercheur de mémoire en quête des biens spoliés, c'était un reportage de Delphine Evenou. Prise de son Benjamin Thiot et Yves Lehorse, mixage Régis Nicolas. Réalisation Hélène Biziot, assistée de Martine Messonnier. Reportage disponible dès maintenant sur franceinter.fr. We'll be right back.